Bonjour, cher frère. Lorsque vous parlez et que vous voyez des sièges vides, vous vous demandez si les gens savaient que vous alliez parler ou s'ils savaient que Monsieur Sarocco allait parler, ou s'ils ont l'amour de Dieu et ne veulent pas rendre quelqu'un malade. Nous nous contenterons de cela, n'est-ce pas, Monsieur Sarocco? Eh bien, au cas où il ne voudrait pas que cela figure dans l'enregistrement, je vais recommencer. Bonjour, cher frère. Au cours de l'année, nous parlons surtout du Père, comme il se doit. Il est Dieu, c'est vers lui que nous nous tournons. C'est à lui que nous adressons nos prières. C'est sur lui que nous nous concentrons. C'est le fils ou la fille que nous cherchons à devenir, mais nous approchons d'une période très spéciale de l'année qui se concentre uniquement sur Christ. La Pâque du Nouveau Testament, et même la Pâque, les jours des pains sans levain. Il fait partie intégrante de ces deux événements. Oui, il fait partie intégrante de tout ce que nous faisons tout au long de l'année, mais nous nous concentrons sur lui de manière unique à cette période de l'année. Vous savez, le monde pense que Christ est mort pour leurs péchés, ce qu'il a fait. Il se concentre trop sur Christ et pas assez sur le Père. Nous savons comment placer ces deux êtres dans la bonne perspective. C'est l'une des choses que nous avons appris à apprécier plus profondément et à mieux comprendre au cours de cette incroyable série à laquelle nous avons participé. Vous savez, je me souviens des bracelets WWJD dans les années 90, et certains d'entre vous s'en souviennent probablement aussi. Quelqu'un s'en souvient-il? D'accord, quelques mains. Il s'agissait d'un petit bracelet portant les lettres WWJD. Et j'avais l'habitude de me demander ce que cela signifiait. Et cela signifiait, que ferait Jésus? C'était une mode à l'époque. Vous savez, que ferait Jésus dans n'importe quelle situation? Et c'est une excellente question. C'est juste que le monde, même s'il est sincère, ne sait pas comment appliquer cette question à sa vie. Que ferait Jésus? Ce n'est pas une mauvaise question. Simplement parce qu'elle est posée par des gens qui ne comprennent pas forcément la réponse. Oui, ils comprennent que Christ est mort pour leurs péchés, pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité, mais ils l'utilisent souvent comme une licence. Eh bien, je peux faire ce que je veux parce que Christ est mort pour mes péchés, ou je peux faire ce que je veux et recevoir le pardon parce que Christ est mort pour mes péchés. Et oui, lorsque nous manquons à nos devoirs, nous pouvons aller vers Dieu et il appliquera ce sacrifice et nous serons pardonnés. Mais nous ne devons pas nous engager dans cette voie en pensant que je peux faire ce que je veux et être pardonné, ou que la façon dont je vis n'a pas d'importance et que je serai pardonné. Il existe dans le monde un état d'esprit qui consiste à ne pas les dénigrer. Il y a beaucoup de gens sincères, mais que ferait Jésus? C'est une excellente question. Surtout en cette période de l'année. Il s'agit simplement d'une question ouverte. Après tout, il est un exemple parfait que Dieu nous a donné d'imiter ou de copier. Pour entrer dans le vif du sujet, reportez-vous à 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Pierre écrit, en effet, ici même, sur deux, où vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Nous reviendrons sur ce mot dans un instant, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces, qu'il n'a point commis de péché, et où il ne s'est point trouvé de fraude dans la bouche. Qui, lorsqu'on l'injuriait, n'injuriait point de nouveau. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Il s'est engagé auprès de Dieu. Il savait que le Père savait ce qui se passait. Il savait que le père comprenait le plan et qu'il le guiderait finalement à travers toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous entendrons certains de ces versets lors du service de la Pâque. Car vous étiez une brebis égarée, mais vous êtes retourné vers le berger et l'évêque de vos âmes. Le mot « exemple » au verset 21, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces, n'est utilisé qu'une seule fois dans la Bible. C'est un mot unique. Chaque fois que Dieu utilise un mot une seule fois, nous devons en prendre note. Si c'est dans un contexte important, nous devons prendre note de toutes ces paroles, bien sûr, mais une seule fois, et cela signifie littéralement une copie à imiter. Pas seulement une copie. Pas seulement une réplique. Il ne s'agit pas d'une Rolex de contrefaçon qui ressemble à la vraie. Non, c'est une copie pour l'imitation. C'est un tel et tel en or, un exemple aussi parfait que vous devriez vous efforcer de le copier, dit Dieu. Nous devrions nous efforcer de le copier, une copie pour l'imitation. Vous savez, je me souviens de l'école d'art, je n'ai jamais été bon en classe d'art, je n'étais pas le meilleur étudiant en art, mais nous faisions des natures mortes, et le professeur sortait un bol de fruits ou quoi que ce soit d'autre. Je ne m'en souviens pas. Vous avez probablement fait des choses similaires si vous avez grandi et êtes allé dans une école d'art en Amérique, et vous avez dû utiliser cette image et essayer de la dessiner exactement. C'était une copie que vous essayiez d'imiter. Cela n'a pas beaucoup de conséquences, mais on peut regarder un élève et lui dire « Tu as bien copié cela », ou on peut regarder un autre élève et lui dire « Qu'est-ce que tu regardais ?» C'est probablement ce qui s'est passé entre moi et mon professeur d'art plastique. C'était plus diplomatique et miséricordieux que cela, mais vous comprenez. La vie est remplie de choses que nous copions. Vous voyez une recette que vous aimez ou un plat que vous aimez, vous regardez la recette et vous déterminez comment la copier. Si vous avez fait des études d'architecture, vous avez étudié les grands architectes, car tant que vous n'aurez pas appris à copier les grands, vous ne pourrez pas faire votre propre travail, c'est ce que l'on pense. Beaucoup d'étudiants en art copient les maîtres avant de produire leurs propres œuvres. C'est assez simple. Un concept assez simple. Mais Christ est une copie que nous avons pour l'imitation. Nous ne sommes pas au Moyen-Orient en train de faire du porte-à-porte pour accomplir des miracles, chasser des démons, dessécher des arbres, faire preuve d'une grande autorité. Nous ne sommes pas en train de le copier dans ce sens. Oui, à l'avenir, il y aura des éléments de ce genre. Nous savons que nous en ferons partie, mais ce n'est pas ainsi que nous le copions aujourd'hui. Christ était l'homme le plus dynamique qui ait jamais foulé le sol de la terre. L'homme le plus dynamique qui ait jamais marché sur terre. Passez au chapitre 21 de la Bible. Jean 21. Nous pensons souvent aux choses miraculeuses qu'il a faites, comme il se doit. Nous pensons souvent à ses grandes actions, à ses actes puissants. Jean 21 verset 20. Alors Pierre, se retournant, vit le disciple que Jésus aimait, qui le suivait, et qui s'était aussi appuyé sur sa poitrine pendant le souper. En parlant de Jean, verset 20, Jean 21, 20, et dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Pierre, le voyant, lui dit, « Jésus, Seigneur, et que fera cet homme ?» Interrogeant Jean, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Suis-moi. » Il dit à Pierre. Alors se répandit parmi les frères cette parole que les disciples ne devaient pas mourir. Jésus ne lui dit pas, « Il ne mourra pas. » Mais s'il tarde jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Jean est en train d'établir ses références pour ce qu'il s'apprête à dire. Il a également souligné que je suis le disciple que Christ aimait. Il a ajouté cela, ce qui est remarquable mais vrai. C'est écrit dans la Bible. Non pas qu'il n'aimait pas les autres disciples. C'est le disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jean dit, croyez ce que je vais vous dire. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, qui, si elles devaient être écrites, tout le monde, je suppose que même le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qui devraient être écrits là-dedans. Jean disait qu'il s'agissait d'un exemple incroyablement dynamique. Il a fait des choses qui ne sont même pas rapportées ici, mais il nous a laissé un exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à copier, si je peux m'exprimer ainsi. C'est donc de cela que nous parlons aujourd'hui. L'importance de copier Christ et quelques moyens pratiques de le faire auxquels nous pouvons nous raccrocher. Comment pouvons-nous copier cet exemple parfait? Comment pouvons-nous copier cette copie laissée pour que nous l'imitions? C'est ce dont nous parlons. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, nous sommes appelés à une vie très discrète. Nous ne sommes pas là à faire des choses visiblement puissantes. Ce n'est pas le but de Dieu pour l'instant. Pourtant, nous devons copier cet être, nous devons copier cet homme. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'esprit signifie ici exercer son esprit. Paul dit donc, pensez comme Jésus. Pensez comme Christ, qui est venu et nous a donné un exemple parfait, qui, étant en forme de Dieu, n'a pas cru bon d'être égal à Dieu, mais s'est fait lui-même sans réputation, a pris sur lui la forme d'un serviteur et a été rendu semblable aux hommes, parce que nous avons besoin d'un exemple auquel nous pouvons nous identifier. Vous savez, il a été tenté en tout point, mais il n'a pas commis de péché. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, je crois. Hébreux 4. Nous avons un exemple concret. Nous avons un modèle que nous pouvons comprendre, qui a été fait à la ressemblance des hommes et qui, ayant pris la forme d'un homme, s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 1 Corinthiens 11. 11 1 Corinthiens. Quelle est l'importance de cet exemple? Paul pensait qu'il avait atteint un point dans sa vie où il était un si bon exemple. Il pouvait dire ceci. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes disciples, comme je le suis moi-même du Christ. Paul a dit, « Je suis devenu un bon exemple quand vous me regardez, quand vous faites ce que je fais, parce que je suis l'étalon or qu'est Jésus-Christ par disciple. » On entend aussi un mot peu utilisé dans la Bible, qui signifie littéralement « imitateur ». Imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Il disait, « Les modèles dans la vie peuvent vous décevoir. » Je suis sûr que vous avez eu des modèles dans votre enfance et que vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient un peu différents de ce que vous pensiez. Vous avez peut-être appris des choses à leur sujet où ils étaient un excellent exemple, mais ils ont pris un mauvais tournant dans la vie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à cela. Qu'il s'agisse d'un modèle que vous avez personnellement connu ou d'une célébrité que vous pensiez être une personne honnête, vous apprenez des faits désagréables sur son passé ou son présent. Eh bien, cela ne s'est jamais produit avec Christ et ne se produira jamais. Il était l'exemple parfait. 1 Jean 2, dans la mesure où nous pouvons copier. Cette copie signifie imitation. Dans la mesure où nous sommes capables de l'imiter, c'est le test ultime. C'est vraiment le test du christianisme. Nous devons vivre comme Christ. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est le même homme qui a dit que le monde ne pourrait pas être rempli de livres sur ses actes, et il est la propitiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Et par là nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit que je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole en lui, c'est l'amour de Dieu qui est parfait, et nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit aussi marcher comme il a marché. Marcher est un mot fascinant. Il signifie marcher tout autour, se déporter, vivre, marcher, surtout comme preuve de capacité. Ainsi, dans la mesure où nous imitons Christ, nous prouvons que nous demeurons en lui. Si nous ne le copions pas, nous ne demeurons pas pleinement en lui. Si nous le copions de plus en plus, nous demeurons de plus en plus en lui. C'est un test, nous devons marcher comme il a marché. Nous ne le ferons pas parfaitement. Nous nous efforçons de progresser dans les domaines où il a marché, mais en cette période d'examen de conscience, ce message sera entendu avant la Pâque dans les champs. Il est entendu avant la Pâque ici. Dans ce temps d'examen, vous avez une norme que nous essayons de respecter, et nous voyons où nous avons échoué dans différents domaines de la conduite ou de la pensée. Quelle que soit la manière dont on le décompose personnellement, il y a beaucoup de bonnes façons de s'auto-examiner, mais la manière ultime, dans un certain sens, est de comparer nos activités à celles de l'exemple ultime et d'apprendre de cet exemple ultime. La raison pour laquelle il était un si bon exemple est également rapportée par Jean. Jean 14. Jean, chapitre 14. Il y a une raison pour laquelle il était un exemple parfait. Encore une fois, nous examinons aujourd'hui à quel point il est important de reconnaître l'importance de cet exemple. Ensuite, certaines mesures concrètes peuvent être prises pour copier l'exemple. Nous en sommes encore à la phase « Quelle est l'importance de l'exemple de ce message ?» Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et désormais vous le connaissez et vous l'avez vu. » Christ dit, comme nous le lisons ici, que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec toi et pourtant tu sais que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment veux-tu donc nous montrer le Père ?» Christ dit, « Si vous avez vu la façon dont je me conduis, vous pouvez aussi bien avoir vu le Père. Car lui et le Père ne font qu'un. Il a agi comme le Père l'aurait fait dans ces circonstances. Il a enseigné le même message que le Père aurait enseigné. Cela fait partie de l'amour de Dieu. Le Père nous a donné un exemple parfait. Il a conçu ce plan de manière à ce que nous ayons quelque chose à quoi nous puissions aspirer. En route pour devenir un de ses fils ou une de ses filles dans le royaume de Dieu. Éphésiens 5. Si nous imitons Christ, nous imitons le Père. Éphésiens 5. Je sais que c'est très élémentaire, mais c'est très approprié à la période de l'année que nous vivons. Très approprié pour considérer ce Sauveur qui est mort pour nous, qui a marché à la perfection. Éphésiens 5, verset 1. Soyez donc des disciples. Ce même mot, imitateur, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme de chers enfants, et marcher dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu, comme une odeur agréable. Copiez l'exemple du Christ et ce qui se rapproche le plus de la copie du Père lui-même. Il a donné cet exemple en se concentrant sur les choses. Ce qui conduisait sa vie, ce qui conduisait la vie du Christ. Nous lisons dans Philippiens que nous devons avoir son esprit. Qu'est-ce qui a dominé sa pensée? Matthieu 22. Matthieu, chapitre 22. Christ n'a jamais été complaisant. Si je peux me référer à la somme honnête, il était toujours concentré. Il savait qu'il avait un but incroyable et très important, et il ne s'est jamais écarté de ce but, que ce soit en termes d'énergie, de dynamisme ou de concentration. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait couvert de honte les sadducéens, pour faire silence, plutôt, s'assemblèrent. L'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui posa une question, le tentant et disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il était concentré sur Dieu, sur le Père, c'est là le premier et le plus grand des commandements, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ces deux commandements que repose toute la loi et tous les prophètes. C'est de cela qu'il s'agit dans la Bible. Aimer Dieu et aimer son prochain. Y a-t-il une autre façon de résumer cela? Aimer Dieu et aimer les êtres humains. C'est dans cet état d'esprit que Christ a agi pendant les quelques décennies qu'il a passées sur terre. Christ a en quelque sorte résumé son approche des gens en Jean 15. Jean 15. Dernier verset sur l'exemple du Christ avant d'entrer dans les détails. Jean 15. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Vous voyez, il avait un exemple. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Il a appris du Père. Je vous fais persévérer dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Tel est mon commandement. Voici un résumé de la déclaration du Christ, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Maintenant, marchez comme j'ai marché. Imitez-moi. Copiez-moi dans le but de m'imiter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. » Comment pouvons-nous faire cela? C'est un vaste sujet et nous ne pouvons en aucun cas en couvrir tous les éléments dans un sermon ou une série de sermons. Comme l'a dit Jean, on ne pourrait pas le consigner dans tous les livres qui auraient rempli le monde. Nous allons cependant nous pencher sur quelques points. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un élément central de la Pâque que nous approchons. Mais, frères, nous ne pouvons pas donner notre vie pour nos amis de la même manière que Christ l'a fait. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas en train de faire des miracles. Nous ne chassons pas les démons. Le ministère peut le faire si nécessaire, mais c'est très rare. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés? Tout d'abord, nous pouvons démontrer cet amour envers les autres. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Première façon de ressembler au Christ. Jésus-Christ a enseigné aux autres. C'était le cœur de son existence. Jésus-Christ a enseigné aux autres. Si nous voulons lui ressembler, nous devons aussi enseigner les autres. Regardez comment s'ouvre le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule. 5, verset 1. Il se rendit sur une montagne et, lorsqu'il fut assis, ses disciples vinrent à lui. Il ouvrit la bouche et les enseigna en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ainsi de suite. Il enseignait. C'est ce qu'il a fait de village en village. C'est ce qu'il a fait dans chaque interaction personnelle. Tout ce qui a été enregistré, c'est lui qui enseignait aux masses ou aux disciples, ou des choses qu'il faisait et dont on pouvait s'inspirer. Il était un enseignant à la base, au plus profond de lui-même. Et dans la mesure où nous sommes des enseignants, nous pouvons aimer les autres comme Christ nous a aimés. Matthieu 11. J'avais quelques chapitres. Le chapitre 11. C'était un grand enseignant. Verset 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout-petits. C'est ainsi, Père, parce que cela a paru bon à tes yeux. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, mais le Père ne connaît personne. Le Père a sauvé le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Nous pourrions ajouter par son exemple et par son enseignement dans ce sous-titre spécifique ici. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Vous savez, si vous êtes sous le joug de quelqu'un, regardez un attelage de bœufs qui sont sous le joug. Vous travaillez côte à côte. Apprenez par l'exemple, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Je veux vous enseigner un mode de vie qui n'est pas comme celui des transgresseurs, qui est difficile. Je veux vous enseigner un mode de vie qui fonctionne réellement, comme le disait Christ, parce qu'il a enseigné dans un but précis. Il a enseigné pour que, lorsqu'il serait devenu le premier-né d'une multitude de frères, beaucoup de frères le suivent. C'est ce qu'il désire pour toute l'humanité, qu'elle entre dans la famille de Dieu. C'est ce que le Père désire, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Mais pour que cela se produise, il faut que nous soyons enseignés et que nous appliquions l'enseignement. Proverbe 15. Nous restons principalement dans le Nouveau Testament, presque exclusivement dans les Évangiles en raison de la nature du sujet que nous traitons, mais le verset 7 de Proverbe 15 est utile ici. Les lèvres du sage répandent la connaissance, mais le cœur de l'insensé ne la répand pas. Dieu nous dit, si vous êtes sage, vous devez maintenant le faire de la bonne manière, et nous y reviendrons. Si vous êtes sage, vous voulez donner de la connaissance, vous voulez répandre la connaissance, vous voulez aider les autres, vous voulez les aider à grandir. Alors qu'il y a des gens qui thésaurisent le savoir, ils ne veulent pas que les autres avancent. Dieu dit que c'est de la folie. Dieu dit, si vous êtes sage, répandez le savoir, donnez le savoir à d'autres personnes, imitez Christ à cet égard. Revenons à Matthieu. Christ n'était pas seulement intéressé par l'enseignement aux autres, c'était cyclique. Matthieu, chapitre 4. Juste avant le sermon sur la montagne, lorsqu'il a commencé à rassembler les disciples, à former l'équipe qui allait poser les fondations pour nous. Matthieu, chapitre 4. Il n'était pas seulement intéressé par l'enseignement. Il voulait enseigner pour faire des enseignants. Il nous a enseigné à devenir des enseignants afin que nous puissions perpétuer l'œuvre qu'il a accomplie. Matthieu 4, 18. Jésus, qui marchait le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et le frère d'André, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit, « Suis-moi. Apprenez de moi, Imitez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous apprendrai à enseigner aux autres. Laisse-moi t'enseigner afin que tu puisses non seulement connaître le chemin, mais aussi aider les autres à le connaître. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. S'éloignant de la clôture, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela, et aussitôt ils quittèrent la barque et leur père, et le suivirent. Il était un enseignant que l'on écoutait lorsqu'il parlait. Vous vouliez lui ressembler. Vous vouliez le suivre et il voulait que vous continuiez. Il voulait que nous l'imitions de manière à ce que d'autres personnes veuillent nous suivre. Le principe est vraiment très simple. Il savait où son enseignement mènerait en fin de compte. Jean 8. C'est pourquoi il était un enseignant. Il savait ce que la connaissance qu'il apportait pouvait faire pour les gens. Jean chapitre 8. C'est pourquoi il a construit son église. C'est pourquoi il veut que ses brebis soient nourries. C'est pourquoi il veut que l'évangile soit prêché. Jean 8, 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous m'écoutez, si vous écoutez ce que j'ai à dire, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Quelle importance cela a-t-il? Et vous ?» Verset 32. Connaîtra la vérité, vous apprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre dans cette vie, mais en fin de compte, libre de cette existence physique. Il quittera ce royaume physique et passera dans l'éternité. Nous serons libérés de la mort. Libérés de la mortalité si nous pouvons apprendre du Christ. Si nous pouvons apprendre de ses mots. Et si nous aidons les autres dans ce sens en faisant le travail. Il y a des façons de faire le travail maintenant. Mais comment pouvons-nous enseigner? Comment pouvons-nous enseigner activement aux autres dès maintenant? Vous pourriez dire, je ne suis pas dans le ministère. Eh bien, les ministres n'enseignent qu'en chair une fois par semaine. Il y a d'autres façons d'enseigner. Il y a beaucoup d'autres façons d'enseigner. Proverbe 22. Si vous avez une famille, Dieu vous confie quelque chose de très, très précieux. Proverbe 22. Si vous avez une famille, vos enfants sont sanctifiés. Proverbe 22, 6. Il est vrai que les ministres enseignent à d'autres moments de la semaine, mais je dis simplement que l'argument selon lequel je ne suis pas ministre, donc je ne peux pas enseigner, n'est pas plus éloigné de la vérité. Je pense que vous serez inspiré lorsque vous entendrez certaines des façons dont vous pouvez avoir un impact réel sur la vie d'autres personnes, probablement plus que vous ne pouvez l'imaginer. Proverbe 22, 6. Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que nous enseignions activement les membres de notre famille. Les gens qui vivent à l'extérieur, au-delà de ces murs, ne sont pas sanctifiés. Ils n'ont pas les mêmes possibilités que nos enfants dans l'Église. Nos enfants dans l'Église ont une chance énorme et il nous incombe de les former. Il nous incombe de les former dans la voie qu'ils doivent suivre, car ainsi, lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en écarteront pas. Or, tout le monde est un agent moral libre. Je comprends, mais les mots disent ce qu'ils font. Deutéronome, chapitre 6. Quelle doit être l'intensité de cette formation? Oh, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, surtout s'ils sont jeunes, vous enseignez probablement plus que moi. Deutéronome 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, ton Dieu, a ordonné de t'enseigner, afin que tu les mettes en pratique dans le pays dont tu vas prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, et que tu observes toutes ses lois et tous ses commandements que je te prescris. Toi, ton fils et le fils de ton fils. D'accord, nous commençons à voir l'élément familial ici. Enfants et petits-enfants, tous les jours de votre vie, et que vos jours se prolongent. Écoute donc, Israël, et mets-toi à l'œuvre, afin que tu sois heureux. Afin que vous puissiez vous multiplier comme le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous l'a promis, dans le pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce que Christ citait lorsqu'il a dit, « Toute la loi et les prophètes sont suspendus à ces deux grands commandements. » C'est l'un de ces deux grands commandements qu'il citait. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ils devraient toujours être sur vos lèvres. Vous devriez toujours enseigner ces voies aux jeunes esprits impressionnables. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Autrefois, c'était très important pour traiter avec une nation charnelle. Il y a littéralement la loi devant eux pour qu'ils puissent la voir où ils voulaient. Maintenant, nous savons qu'elle est dans nos cœurs, nous savons que nous en parlons, nous n'avons pas, vous savez, je pense à ces phylactères, et nous n'écrivons pas réellement la loi sur nos poteaux de porte, et ainsi de suite. Mais le principe est là. Tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, comme des frontaux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. D'accord, peut-être n'avez-vous pas d'enfants. Peut-être n'avez-vous pas d'enfants. Qu'en est-il de la communion fraternelle lors des cultes du sabbat? Je parlais avec une dame ici la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et nous avions une conversation longue et édifiante, et le sujet de la prière pour vos ennemis a été abordé. Elle m'a dit, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Je lui ai répondu, oui. On n'y pense pas activement à moins d'en parler ou d'être confronté à une situation. Elle m'a dit, j'ai fait cela une fois. J'ai dit, vraiment. Comment cela s'est passé? J'étais impatient d'en savoir plus. Elle m'a raconté qu'elle avait un voisin avec lequel elle était en conflit ou avec lequel elle ne s'entendait pas. Et elle a décidé, vous savez quoi? Je vais prier pour cet homme. Et c'est ce qu'elle a fait. Une violente tempête est passée par là et a fait tomber une branche sur sa maison. Elle est sortie de chez elle et s'est demandé ce qui n'allait pas. Et elle a vu cet homme, comme si rien ne s'était passé auparavant, arracher la branche. C'était la paix. Elle a prié pour l'ennemi et Dieu a répondu d'une manière unique. J'ai trouvé cela inspirant. J'en ai tiré des leçons. Cela m'a enseigné. Cela peut donc être aussi simple que de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Partager des histoires inspirantes du passé, parler des messages. Il ne s'agit pas nécessairement d'un scénario actif, vous savez, vous êtes l'étudiant et je suis le professeur, ou vice-versa, mais nous apprenons à travers toutes sortes de discussions, à travers toutes sortes d'interactions dans l'Église de Dieu. Mais que se passe-t-il si vous n'avez personne avec qui fraterniser? Et si vous n'avez pas de frères à proximité? Pas d'enfants, pas de frères, vous êtes seul. Maintenant, heureusement, il y a des moyens de vous tendre la main et des gens à qui vous pouvez parler grâce à la technologie. Mais notre exemple, à mon avis, est plus instructif que tous les autres. Vous pouvez parler jusqu'à en perdre la tête en disant à votre fils de faire quelque chose, mais s'il s'agit de faire ce que je dis et non ce que je fais, je peux en témoigner personnellement sans vouloir dénigrer mon père, s'il s'agit de faire ce que je dis et non ce que je fais, c'est que vous n'écoutez pas en tant que fils. Je pense que nous en avons tous fait l'expérience dans une certaine mesure, et je ne dénigre donc en aucun cas mon père. Nous devons être des exemples pour enseigner avec crédibilité. Mais encore une fois, que se passe-t-il si vous êtes seul? 1 Thessaloniciens 4. La meilleure façon d'enseigner les autres est de donner l'exemple dans ce monde, d'être des lumières dans ce monde. On peut vivre à des milliers de kilomètres des frères les plus proches et n'avoir jamais eu de famille. Et vous pouvez le faire, nous pouvons le faire, nous devons tous le faire, que nous soyons dans une grande congrégation, une petite congrégation ou quelque part entre les deux. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. De plus, frères, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, afin que, comme vous avez reçu de nous la manière de marcher et de plaire à Dieu, vous abondiez de plus en plus. Verset 9. Sautons vers le bas, mais en ce qui concerne l'amour fraternel. Nous discutons donc de la façon de marcher, verset 1. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car Dieu vous a enseigné à vous aimer les uns les autres. Nous avons de l'amour pour les frères. Dieu nous enseigne comment le faire en partie grâce à l'exemple du Christ. Vous le faites à l'égard de tous les frères qui sont en Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à croître de plus en plus. Efforcez-vous de faire encore mieux. Et que vous vous appliquiez à être tranquille. Nous parlons ici de la façon dont nous nous comportons dans le monde. Et que vous appreniez à vous tenir tranquille, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons ordonné. Pourquoi? Afin que vous marchiez honnêtement envers ceux qui sont dehors. Si nous nous conduisons de manière respectable, si nous allons au travail et faisons du bon travail, si nous ne sommes pas, vous savez, la roue bruyante et bizarre qui cause toujours des problèmes, alors nous marchons honnêtement vers ceux qui sont sans, et nous ne manquons de rien. Et cela devient très important. Notre exemple n'est pas seulement une réflexion sur l'Église de Dieu aujourd'hui, mais il est d'une importance incroyable. Regardez la 1 Pierre, chapitre 2. Lorsque les gens dans le monde découvrent que nous faisons partie de cette Église folle, ou quelle que soit la manière dont ils la qualifient, ce ne doit pas être parce que nous avons fait quelque chose de fou dans la société. Ils n'aiment pas ce que nous représentons. Ils ne s'y retrouvent pas. Mais notre réputation, notre exemple, notre caractère dans la société doivent être très bons. 1 Pierre, 2, verset 1. C'est pourquoi, renonçant à toute malice, à toute ruse, à toute hypocrisie, à toute envie, et à toute parole malveillante. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait sincère de la parole, afin de croître par lui. Si vous avez goûté à la bonté du Seigneur, et ainsi de suite. Nous grandissons en fonction de ce que nous apprenons. Verset 11. Je vous prie, bien-aimés, d'être des étrangers et des pèlerins. Nous sommes des étrangers et des pèlerins dans le monde, nous sommes différents. Vous savez, lorsque les pèlerins sont arrivés en Amérique, ils sont arrivés dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Ils ont dû s'y adapter. Ils ne ressemblaient à rien de ce qui existait déjà sur ce continent. Comme des pèlerins et des étrangers, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conversation et une conduite honnête. Ce mot signifie beau, mais surtout bon, valable, vertueux. Votre conversation et votre conduite sont honnêtes parmi les païens. Parmi les incroyants dans ce sens, parmi ceux qui ne sont pas dans l'Église de Dieu, afin que, lorsqu'ils parlent de vous comme de malfaiteurs, vous savez, de manière injustifiée, ils sont dans cette Église alors qu'ils parlent de vous comme de malfaiteurs, ils peuvent acheter vos bonnes. C'est le même mot connaître. Ils peuvent acheter vos bonnes œuvres, qu'ils verront. Vous savez, ils peuvent dire que nous sommes différents. Chaque année, des sites de fête nous disent « Votre groupe est différent ». Eh bien, c'est la fête collectivement. Je vous garantis que si vous interagissez avec les gens dans votre travail dans le monde et que vous vous efforcez de copier l'exemple du Christ, je vous garantis que votre patron pense que vous êtes différent, que vos collègues de travail pensent que vous êtes différent. Vos amis qui pourraient dire, oui, ils font partie d'une organisation étrange, mais ils sont gentils. Ils pensent que vous êtes différent. Ils savent que vous êtes différent. Ils savent que nous sommes différents. Afin que, par vos bonnes œuvres, qu'ils verront, ils glorifient Dieu au jour de la visite. Pensez-y. Le bel exemple que vous donnez maintenant, l'exemple vertueux, honnête et bon que vous donnez maintenant sera évoqué le jour de la visite. Et ils diront, « Oh là là, vous savez, maintenant je comprends pourquoi cette personne était comme cela. Regardez tout ce qu'elle a traversé et maintenant elle va être mon professeur, et je peux devenir comme elle. Je peux devenir ce qu'elle a accompli. » C'est de l'enseignement. C'est plus d'enseignement que si vous étiez en chair chaque sabbat ou si vous écriviez dans l'une de nos publications. Vous êtes un exemple vivant, jour après jour. Vous êtes une leçon constante pour les gens. Nous sommes des leçons constantes pour les gens, et parfois cela ressort tellement que le chapitre 3, le 1er Pierre 3 entre en jeu. 1er Pierre 3, verset 15. Sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Parfois, les gens voient une telle différence en vous qu'ils commencent à poser des questions et Dieu leur dit d'être prêt à donner une réponse. Vous savez, cela peut nécessiter une prière immédiate, mais si nous faisons les choses que nous devrions faire dans la vie, alors ces réponses viendront. Il les inspirera. Vous pourriez dire, c'est plutôt rare. C'est ainsi que j'ai été appelé. Je voulais savoir pourquoi quelqu'un ne mangeait pas de sandwich au jambon et maintenant je suis là. Vous savez, il était prêt à me donner une réponse, et je suis là. J'aime le jambon. J'adore le jambon. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Avoir une bonne conscience, afin que, s'ils disent du mal de vous comme des malfaiteurs, ils aient honte d'accuser faussement votre bonne conversation en Christ, votre bonne conduite en Christ. Ils ont honte parce qu'ils savent qu'ils font beaucoup mieux que moi. Ils disent probablement sous leur souffle quand ils voient, « Oh là là, vous savez, cette personne a tout compris, ou cette personne ne ferait pas de mal à une mouche. » Ou c'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées, ou cette personne me donnerait la chemise qu'elle a sur le dos. Vous savez, je suis sûr qu'il y a une certaine honte quand ils nous accusent faussement, et encore plus au jour de la visitation quand tout nous revient en mémoire. La deuxième façon de ressembler au Christ, c'est que Christ était toujours prêt à intervenir et à aider. Il était toujours prêt à intervenir et à aider. Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait, et voici qu'arriva un lépreux. Vous savez, cette personne dans une situation horrible que les gens ne voulaient pas toucher, qui vivait une vie misérable en marge de la société. Et il adorait. Le verset 2 dit, Matthieu 8, 2, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Christ n'a pas dit, laisse-moi y réfléchir et te répondre, ou donne-moi un jour pour y réfléchir, ou ah, je suis un peu occupé. Non, Il a dit, je le ferai. Ce sont les mots qu'il a prononcés ensuite. Si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, je suis prêt à t'aider. Je suis désireux de t'aider, de te purifier, et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Ce n'est pas un exemple que nous pouvons appliquer, mais nous pouvons avoir le même état d'esprit lorsque quelqu'un a besoin d'aide, dans les limites du raisonnable, en fonction des circonstances, bien sûr. Et tout n'est pas aussi urgent qu'un lépreux qui vient vous voir, qui a vécu une vie horrible et qui a besoin d'une aide immédiate. Il y a de la décence et de l'ordre dans le fait d'aider les gens. Je n'en disconviens pas. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au prêtre, et offre le don que Moïse a prescrit, pour que cela leur serve de témoignage. Et voici un autre récit juste après. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion vint le trouver pour l'implorer et lui dire, « Seigneur, mon serviteur est couché chez lui, malade de la paralysie et en proie à de violents tourments. » Il s'agissait d'une personne souffrant d'une douleur physique immédiate. Jésus dit, « Je viendrai le guérir. » Il était prêt, capable et désireux d'aider les gens. Le centurion prit la parole et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Et ainsi de suite. Nous connaissons le récit, mais encore et encore, je veux aider, je veux te soulager de ton problème. Mais ce n'était pas seulement lorsqu'on lui demandait des choses, il cherchait des occasions. Verset 14, même chapitre ici. Après avoir rencontré le centurion et le lépreux, Jésus se rendit à la maison de Pierre et vit la mère de sa femme couchée et malade de la fièvre. Il a vu quelqu'un dans le besoin. On ne lui a pas demandé, « Oh, Pierre, tu penses bien qu'en voyant Christ guérir ces deux autres personnes, il aurait dit, « Peux-tu faire quelque chose pour ma mère ?» Il aurait pu se dire, « Ce n'est qu'une fièvre, peut-être que Christ n'a pas le temps pour cela, mais nous ne voyons pas qu'il a peut-être demandé, mais nous ne voyons pas l'enregistrement de cela. Nous voyons simplement Christ entrer dans la maison de Pierre et voir ses belles-mères mortes ou plutôt malades de la fièvre. Et qu'a-t-il fait? Il a touché sa main et la fièvre l'a quittée. Elle s'est levée et les a servis. Il a vu une occasion d'aider quelqu'un, et plutôt que d'attendre qu'on le lui demande, il s'est jeté à l'eau et l'a fait. Son esprit était prêt à servir. C'est ce même Pierre, dont la belle-mère a été guérie, qui a dit cela, dans 1 Pierre 5. Verset 1. Les anciens. 1 Pierre 5. 1. Qui sont au milieu de vous, je les exhorte, moi qui suis ancien et témoin des souffrances du Christ, et qui participe à la gloire qui doit être révélée. Paix c'est le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, en prenant soin de lui, non par contrainte. C'est-à-dire non comme si c'était obligatoire, non comme si vous deviez le faire, mais de bon gré. C'est-à-dire volontairement. Non pour le lucre, mais d'un esprit bien disposé. Un esprit prêt, c'est-à-dire avec empressement, avec vivacité, avec une joyeuse disponibilité. Non pas comme des maîtres de l'héritage de Dieu, mais comme des exemples pour le troupeau. Des exemples, des personnes que l'on peut imiter. Cela ne concerne pas seulement le ministère. Nous devons tous avoir l'esprit prêt. Saisissons-nous les opportunités de service? Les recherchons-nous? Comment les voyons-nous? Titre 3. Quel est notre état d'esprit lorsque quelqu'un nous demande de l'aide? Est-ce que nous nous disons, « Ah, vous savez quoi? Mieux vaut le faire à contre-cœur que de ne pas le faire du tout, mais mieux vaut avoir la bonne perspective. » Titre 3. Mieux vaut se mettre dans le bon état d'esprit à l'avance. Titre 3. 1. Mettez-les dans l'esprit d'être soumis aux principautés et aux pouvoirs, d'obéir aux magistrats, d'être prêts à toute bonne œuvre. Par prêt, on entend ajuster. Soyez ajustés. Soyez mentalement préparés à de bonnes œuvres, à ne dire du mal de personne, à ne pas être des bagarreurs, mais à être doux, à faire preuve d'une grande mansuétude à l'égard de tous les hommes. C'est un changement de paradigme. C'est un véritable changement d'état d'esprit, contrairement à la façon dont le monde pense. Vous savez, je peux dépenser de l'essence supplémentaire et faire un détour pour aller chercher cette personne sur le chemin de l'office du sabbat. Vous savez, les finances sont déjà serrées et la route est déjà longue. Ou bien je peux faire en sorte que quelqu'un assiste aux offices du sabbat, apprenne les choses que j'ai apprises et puisse passer l'éternité avec moi. L'une est de servir volontairement, à « on m'a demandé de faire cela et je ne vais pas dire non ». L'autre, c'est « oh là là, vous savez, je peux vraiment avoir un impact positif sur la vie de cette personne ». Je me souviens que, lorsque j'ai commencé à fréquenter l'école, les gens étaient prêts à me raccompagner à United. Je me souviens aussi, comme si c'était hier, de ma première Pâque dans l'église de Dieu restauré. Et je ne veux pas le mettre dans l'embarras, mais Monsieur J l'a conduit de Virginia Beach, 1h30 jusqu'à ma maison à Richmond, puis encore 2h30 avec moi dans la voiture, 2h30 à 3h selon la circulation, pour aller célébrer la Pâque. Vous savez, nous étions très excités. Notre première Pâque, ma première Pâque était en fait une transition entre United et Ristaud, donc je n'ai pas pu la faire avec quelqu'un d'autre. Mais pour ma première Pâque avec des gens, quelqu'un était prêt à venir me chercher pour un voyage de, comment dire, un voyage de 5 heures pour cette nuit-là. Oh là là, vous savez, il a fait cela volontairement. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je dois rester tard pour préparer la salle après les offices. Ou je dois venir tôt pour installer la salle. Ou je dois venir le vendredi soir pour préparer la salle. J'ai travaillé longtemps à l'installation. Très longtemps. Je sais que l'on peut avoir l'impression que, ah, vous savez, c'est reparti. Mais le fait est que nous n'aurions pas de service du sabbat dans la décence et l'ordre. Nous ne pourrions pas nous réunir dans une belle salle propre si les gens n'y consacraient pas du temps. Préparer la meilleure salle de classe au monde, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a deux façons de voir les choses. Troisième domaine dans lequel nous pouvons ressembler davantage au Christ. Christ a reconnu la source de son pouvoir et de son succès. Il a reconnu la source de son pouvoir et de son succès. Matthieu, chapitre 5. Un autre miracle spectaculaire avec une leçon à la clé. Matthieu, chapitre 5. Ces derniers points iront plus vite que les premiers. Ils passèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Lorsqu'il fut descendu de la barque, il vint aussitôt au-devant de lui, sortant des sépulcres, un homme possédé d'un esprit impur, qui avait sa demeure parmi les sépulcres, et que personne ne pouvait l'attacher, non pas avec des chaînes. Et nous lisons ce récit de légions possédées par de multiples démons. C'est l'un des récits de possession les plus spectaculaires de la Bible. Et il a jeté ses démons dans les ports, vous vous souviendrez probablement du verset 15. Ils s'approchèrent de Jésus et virent le possédé du démon, Légion. Après que Christ eut chassé les démons et qu'il eut fait asseoir Légion, l'eut vêtu et lui eut rendu son bon sens, et ils eurent peur. Ils savaient que quelque chose avait changé. Ils ont su que quelque chose avait changé, cet homme doit avoir un pouvoir incroyable s'il a pu dompter cet homme qu'on ne pouvait pas enchaîner. Ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au possédé. Ils apprirent ce qui s'était passé avec le diable, et aussi ce qui était arrivé au porc. ils se mirent à le prier de quitter leur côte. Lorsqu'il fut arrivé au navire, celui qui avait été possédé par le démon le pria d'être avec lui. « Vous venez de changer ma vie. Laissez-moi venir avec vous. » Jésus ne le souffrit pas, mais il lui dit, « Va chez tes amis, et raconte-leur les grandes choses que je n'ai pas faites pour toi. Dis-leur combien le Seigneur a fait pour toi, et combien il a eu pitié de toi. » Vous savez, Christ s'est humilié d'une manière que nous ne pouvons pas contempler. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous pouvons le contempler, mais nous ne pouvons pas le comprendre. Il était là depuis toujours. Il avait tout pouvoir auprès du Père. Ces capacités incroyables que nous espérons exploiter dans un avenir proche. Il avait un esprit que nous ne pouvons pas encore comprendre. Et il s'est humilié pour devenir comme un homme. Il avait un pouvoir extraordinaire. Pourtant, il n'a pas dit, « Allez leur dire ce que j'ai fait. » Il a dit, « Allez leur dire ce que le Père a fait pour vous. » Ce que le Seigneur a fait pour vous. Il a pris soin d'attribuer ses succès à Dieu. Jean 5. Jean chapitre 5. Verset 19. Nous reprenons un peu. Nous sommes au verset 19. Christ dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il voit faire au Père. Car ce qu'il fait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. En d'autres termes, notre exemple parfait disait qu'il avait un exemple parfait. Il avait une copie parfaite à imiter. C'est pourquoi il est une copie parfaite que nous devons imiter. Tout ce qu'il fait, le Père le fait, le Fils le fait aussi. Il en a attribué le mérite au Père. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. En effet, comme le Père a ressuscité les morts et les a rendus vivants, de même le Fils rend la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il est la source de l'autorité, la source de la puissance, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il désigne constamment le Père comme étant l'origine. Il lui a donné l'autorité. Christ dit que c'est le Père qui m'a donné l'autorité d'exécuter le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la damnation. Je ne peux rien faire de moi-même, dit cet être tout-puissant. À plus forte raison, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes inférieurs au Christ par des ordres de grandeur incalculables. À plus forte raison, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Dans la chair, Christ n'avait pas à sa disposition toute la puissance qu'il avait autrefois. En tant que notre exemple parfait, il s'est appuyé sur le Père. Il s'est appuyé sur le Père. Tout succès que nous avons vient de Dieu. Vous pouvez noter le verset 18 de Deutéronome 8. Dieu nous donne même la capacité de nous enrichir. Nous serions des sans-abri, les gens seraient des sans-abri si Dieu ne leur donnait pas le pouvoir de s'enrichir. Il est dit dans Deutéronome 8, 18, Je vais y aller rapidement, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de t'enrichir. Nous prenons des choses comme payer nos factures, nous pouvons les prendre pour acquis si nous nous en sortons bien. Non, même quelque chose d'aussi fondamental que gagner sa vie vient de Dieu. C'est lui qui vous donne le pouvoir de vous enrichir, afin d'établir l'alliance qu'il a jurée à vos pères, comme elle l'est aujourd'hui. Nous prions Dieu pour nos besoins physiques et spirituels parce que c'est lui qui y pourvoit. C'est lui qui les fournit. Il est le Père de tout ce qui est bon et parfait, pas seulement de la sagesse du début de chacun, mais le Père de tout ce qui est bon et parfait. Tout ce qui est bon dans la vie, nous devons l'attribuer au Père. Christ l'a certainement fait. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire sans lui. Dernier point ici, il est lié au précédent. Pour ressembler au Christ, nous devons nous sacrifier. Christ a vécu une vie de sacrifice. Vous savez, nous n'avons peut-être pas l'impression de nous sacrifier dans certains sens, mais c'est pourtant le cas. Nous ne poursuivons pas la vie que nous aurions autrement poursuivie. Nous avons tout vendu, nous vivons modestement. Nous n'avons pas notre récompense dans cette vie, bien qu'il y ait des trésors inestimables dans cette vie en vivant à la manière de Dieu, s'il vous plaît ne vous méprenez pas, chapitre 8 du Matthieu. Considérez les circonstances du Christ. Tout est question de sacrifice. Matthieu 8, verset 19, un scribe vint lui dire, « Maître, Christ, je te suivrai partout où tu iras. » Et Christ répondit qu'il était plus facile de le dire que de le faire. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Verset 20, Matthieu 8 verset 20, « Il n'avait pas de maison. » Il n'avait pas de maison. Il n'était pas sans abri comme ces mendiants que vous voyez, mais il faisait constamment ce que Dieu lui demandait, à tel point qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui et se détendre à la fin de la journée. Il pourrait peut-être se détendre près du feu de camp avec ses amis proches, mais où? Là où le travail l'emmenait. Chapitre 13, Matthieu. C'est ce qu'il a fait dès son plus jeune âge. D'accord, il a eu un foyer dès son plus jeune âge, mais il était constamment concentré sur ce sur quoi il devait se concentrer, et il a été diabolisé pour cela. On le méprisait. Les gens pensaient qu'il était fou. Si vous êtes nouveau dans l'église et que votre famille ou vos amis, quels qu'ils soient, ne vous ont pas encore pris pour un fou, c'est probablement pour bientôt. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais si vous êtes dans le chemin de Dieu depuis un certain temps, vous avez probablement connu la persécution. Ce n'est qu'une fraction de ce que Christ a vécu en notre nom, et il était constamment concentré. Chapitre 13. Il arriva. Verset 53, que, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, et qu'il arriva chez lui. Excusez-moi. Luc 2, ce n'est pas là que je voulais aller. Luc 2, verset 42, « Lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem, lui et sa famille, selon la coutume de la fête. Lorsqu'ils eurent accompli les jours de leur retour, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et Joseph et sa mère le savaient. Mais eux, pensant qu'ils faisaient partie de la foule qui s'en retournait, se mirent en route pour une journée, et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils s'en retournèrent à Jérusalem, le cherchant. Que fait-il, ce garçon de 12 ans? Eh bien, il faisait quelque chose pour nous. 3 jours plus tard, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent stupéfaits, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous traites-tu ainsi ? Voici que ton père et moi, nous t'avons cherché avec tristesse, nous sommes inquiets à ton sujet. Il leur dit, comment me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Voilà quelqu'un qui a sacrifié son enfance, qui a sacrifié sa vie entière, qui n'a jamais péché, qui a constamment enseigné, qui a toujours été prêt à aider les gens, en route vers le sacrifice ultime qui nous permet d'être des fils et des filles dans la famille de Dieu. Il s'est sacrifié à chaque instant et a fini par donner sa vie pour nous. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme puisse avoir pour un autre que de donner sa vie pour lui. Il a donné sa vie pour nous tous. Il a fait toutes ces choses pour nous. Il s'est constamment sacrifié pour nous, pas seulement pendant ses dernières heures sombres, mais pendant toutes les années de sa vie. Il a constamment lutté contre le péché, n'a jamais failli, afin que nous ayons un sauveur. Hébreux, en fait, Galates, chapitre 1. Galates 1. Il l'a fait pour nous. Galates 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu le Père et par notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Toute sa vie a été une vie de don. Tite 2, 14. Inutile de s'y attarder, dit à peu près la même chose. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Et il va sans dire que le Père aussi était prêt à donner son Fils pour nous. Ce sont les êtres les plus généreux et les plus dévoués de l'univers, et dans la mesure où nous sommes prêts à nous sacrifier sur certains de ces points, nous pouvons leur ressembler davantage. Nous pouvons copier cet exemple parfait. Un dernier passage, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi était-il si disposé à se sacrifier? Hébreux 12 et verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids dans le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, s'est donné pour mission d'être l'homme de notre temps. Il se réjouit de ce qu'il fait pour nous tous, il se réjouit de passer l'éternité avec nous, lui qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Sorte de pierre angulaire de sa vie de sacrifice, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. C'est ce sacrifice qui nous permet ici, au verset 28, de recevoir un royaume inébranlable. Verset 28. Ayons la grâce de pouvoir servir Dieu d'une manière agréable, avec respect et une crainte digne de Dieu. Rappelez-vous le début de ce message dans la première Pierre 2, car c'est à vous que Christ a été appelé, et c'est pour nous qu'il a souffert, vous laissant un exemple, une copie à imiter, afin que vous suiviez ses traces. J'espère que nous comprenons mieux cette copie parfaite. De quelque manière, nous pouvons pratiquement la copier, l'imiter. Enseignons les autres de manière naturelle. Soyons toujours prêts à intervenir et à aider. Reconnaissons la source de notre pouvoir et de notre succès en suivant cet exemple et, en fin de compte, soyons des sacrifices vivants, prêts à nous sacrifier dans notre conduite, sachant que quelqu'un nous a précédés et s'est sacrifié d'une manière qu'on ne nous demandera jamais de sacrifier, d'une manière qu'il est impossible de comprendre pleinement et que nous ne pourrons jamais égaler. Maintenant, il nous a donné un chemin à travers son sacrifice. Suivons les pas de celui qui était la copie parfaite du Père.